Alors, gloire à Dieu. Donc, on doit commencer Exode 25, la partie consacrée à la construction du tabernacle. Donc, la scène, c'est que Moïse est attiré à la montagne de Sinaï. Et Dieu va lui parler. Il est écrit dans Exode 24, 18, « Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Et pendant ce temps-là, Dieu va lui parler. » Et après avoir, dans un premier temps, parler à Moïse pour donner les lois concernant la relation avec Dieu et la relation entre hommes. Maintenant, il va lui donner des instructions beaucoup plus profondes. Donc, on voit que Moïse reste 40 jours, 40 nuits, parce que c'était des instructions profondes sur la construction du tabernacle. Tabernacle, c'est une tente. Bon, ça veut dire tente, et nous allons vivre des lectures un peu techniques. Mais comme c'est dans la parole de Dieu, il est écrit, l'homme vivra de toute parole qui vient de Dieu. Donc on ne peut pas que lire les choses simples. Voilà, là, ça va être des descriptions sur descriptions. Mais ça a son importance et nous devons lire. Au début, j'hésitais si on devait faire lire ça, mais on va lire pour voir combien Dieu gère son œuvre. Parce que là, il s'agit de son œuvre, la construction du tabernacle. Donc, on commence le chapitre 25.
Exode 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël. » Qu'il m'apporte une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur, sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël.
Voilà. Donc, première étape, construction de l'arche. Donc, l'arche, comme ça vient d'être dit en conclusion au verset 22, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Donc, l'arche symbolise le lieu où Dieu va, l'endroit où Dieu va résider pour rencontrer Moïse. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que toutes les on remarque qu'il y a un seul métal qui est utilisé pour construire l'arche. C'est quel métal ? Il n'y a qu'un seul métal qui est utilisé. Pourtant, quand Dieu demande les offrandes, il demande les offrandes de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes, ainsi de suite. Mais quand maintenant, on commence à parler de l'arche, là, on n'utilise qu'un seul métal, c'est de l'or. Donc l'or symbolise, l'or pur symbolise la perfection, la grandeur et la gloire de Dieu. Donc on va voir, cet enchaînement-là va être souvent utilisé dans la Bible, dans la suite. Même Paul, quand il parle dans 1 Corinthiens 3, quand il explique les matériaux qui seront acceptés, il parle d'abord des matériaux en or, en argent et ensuite en pierre précieuse. Voilà, donc l'or symbolise le Père et c'est ça qui se manifeste là, ça symbolise la pureté, la grandeur et la gloire de Dieu. Et tout ce qui concerne l'arche, donc l'arche est un coffre, ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées. 2 coudées, c'est environ 1,10 m. Et 2,5 coudées, donc ça va faire 1,40 m. Sa largeur d'une coudée et demie, et puisque une coudée, c'est environ 55 cm, et sa hauteur d'une coudée et demie. Donc c'est ce coffre-là qu'on appelle l'arche de l'Alliance, qui symbolise l'endroit où Dieu va résider pour rencontrer Moïse, pour parler, afin de donner des instructions à son peuple. Et on se rend compte, puisque la construction va continuer, mais on se rend compte que Dieu commence d'abord par la construction, le concernant lui. En priorité, c'est Dieu d'abord. Donc après, il va y avoir autre chose, mais en priorité, Dieu d'abord. D'abord, l'arche de l'Alliance, parce que dans le tabernacle, qui est une grande tente, il y aura beaucoup de choses très importantes, mais Dieu commence par l'élément qui le concerne d'abord, lui. Donc, comme pour dire, dans la vie de chaque enfant de Dieu, c'est d'abord Dieu qu'il faut viser. Comment m'approcher de Dieu ? Comment vivre avec Dieu ? C'est la chose la plus importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, c'est ce qui est montré là. Et tout est or pur, or pur, or pur, or, jusqu'au bout. Voilà. Verset 23, nous continuons.
Tu feras une table de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras alentour un rebord de 4 doigts sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendres seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne.
Voilà, donc regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc le Seigneur a montré un modèle à Moïse. Donc il n'a pas, là ça nous est écrit, mais lui lui a montré l'image de ce qui doit être fait. Donc ce n'est pas quelque chose qui vient, c'est pas comme une invention, une nouvelle construction, non. Dieu lui a montré le modèle qui existe déjà. Il dit, tu reproduis comme je t'explique. Et il faut comprendre la difficulté de l'exécution de tout ça. C'est des choses très difficiles à faire. Quand on dit que le chandelier, c'est, on aurait dû penser amener des images de tout ça. Pour la fois prochaine, on va amener les images de tout ça pour montrer quand même. C'est pas facile d'imaginer à chaque fois par la lecture. Donc, le chandelier, ça avait 3 branches d'un côté, 3 branches de l'autre côté, puis la tige au milieu, ce qui faisait 7 au total. Donc, on dit que tout ça devait être fait, on ne devait pas souder. Donc, ça devait être fait directement comme ça. Ce n'est pas facile. Donc, on ne soude pas. Donc, c'est l'œuvre de Dieu est total, ce n'est pas quelque chose qu'on peut raccommoder. Non, c'est comme une sorte de création. Donc, c'est comme ça que ça devait se faire. D'où nous allons voir par la suite. Le Seigneur va dire, pour faire cela, j'ai oint des personnes. Parce que c'est quelque chose de très difficile, ce que Dieu demande de faire là. Et pourtant, ça va être fait. Donc, ça devait être d'une seule pièce. Et puis, remarquons, on peut se poser la question, mais d'où allait venir tout cet or-là? Parce que c'est beaucoup d'or. Et on voit qu'au premier verset du 25, c'est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Donc déjà là, il y a une notion de faire les offrandes librement, de bon cœur. Il y a une notion, il n'y a pas de contrainte, dire à quelqu'un, si tu ne donnes pas, tu ne seras pas béni. Il faut donner, sinon vous êtes maudit. Non, il y a vraiment, dès le départ, la notion de ce que Dieu veut travailler avec les gens de bon cœur. Ce n'est pas, il ne veut pas obliger les gens à faire des choses, notamment à donner. Et là, il dit donc les gens qui vont se sentir libres de donner, qu'ils donnent pour la construction de tout ce qui concerne le tabernacle. Maintenant, par la suite, il y a la description des choses, l'or, l'argent, les reins, les étoffes, tintant bleu, ainsi de suite. On peut se demander toutes ces richesses allaient venir d'où. Mais souvenons-nous, quand ils sortaient d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les Égyptiens leur ont donné leur or, leur argent, leurs richesses. Et donc, les enfants d'Israël, en sortant d'Égypte, étaient immensément remplis d'or, d'argent, de tissus précieux, ils en avaient. C'est pourquoi quand Dieu demande, ce n'est pas quelque chose qui allait demander un grand effort. Non, ils avaient toutes ces choses-là, il suffisait de donner. Et voilà c'est que, d'où venait tout cet or, tout l'argent, tout ce que Dieu demande. Mais on voit que le Seigneur est en train de présider à la construction de toutes choses. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de logique humaine. Il dit à Moïse, tu feras comme moi, je t'ai montré. Donc, beaucoup de gens, parfois, veulent mettre leur intelligence dans les choses de Dieu. Ah, mais je pense. Ça, non, il n'y a pas de je pense. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous dirige et l'Esprit de Dieu. Donc, il n'y a pas de commencer à croire, mettre les choses de Dieu dans une logique humaine, ça finit toujours par la désobéissance au Seigneur et à l'Esprit de Dieu. Nous devons être attentifs à la parole et appliquer ce que le Seigneur demande de faire. Nous continuons, chapitre 26.
Tu feras le tabernacle avec 10 tapis de fin lin retors et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis seront joints ensemble. Les 5 autres seront aussi joints ensemble. Tu feras des lacets bleus au bord du tapis, terminant le premier assemblage. Et tu feras de même au bord du tapis, terminant le second assemblage. Tu mettras 50 lacets au premier tapis, et tu mettras 50 lacets au bord du tapis, terminant le second assemblage. Ces lacets correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or, et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle formera un tout. Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis sera de 30 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour les 11 tapis. Tu joindras séparément 5 de ces tapis et les 6 autres séparément. Et tu redoubleras le 6e tapis sur le devant de la tente. Tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le premier assemblage et 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. Tu feras 50 agrafes d'airain et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente qui fera un tout. Comme il y aura du surplus dans les tapis de la tente, la moitié du tapis de reste retombera sur l'arrière du tabernacle. La coudée d'une part et la coudée d'autre part qui seront de reste sur la longueur des tapis de la tente, retomberont sur les deux côtés du tabernacle pour le couvrir. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus.
Voilà, bon. Il y a une observation par rapport au dauphin. On ne sait pas exactement l'animal qui est utilisé là. Il y a certains qui ont mis dauphin, d'autres ont mis autre chose. Bon, donc ça reste un mystère pour nous. Bon, là, on accepte, c'est écrit dauphin. Mais en réalité, voilà, il y a même des versions qui disent blaireau. Voilà, donc il y a plusieurs. Le mot n'est plus utilisé et on ne sait pas exactement c'est quoi comme peau. Mais ce qu'on peut retenir, c'est de la précision. La précision, les choses sont décrites avec précision. C'est pas du bricolage. C'est vraiment décrit avec précision. Et il faut comprendre que chaque couleur, tissu, peau d'animal a son sens. Mais le but de Bérin l'explorateur, ce n'est pas d'aller trop en profondeur aussi, donc nous devons rester sages. Nous ne cherchons pas à remplir notre cerveau d'une manière intellectuelle. Nous voulons tirer des enseignements pour mettre en pratique dans notre vie de tous les jours en tant que chrétiens. C'est ça qui est important pour nous. Nous ne cherchons pas, parce que chaque chose a sa signification. Quand on dit chapitre 26, verset 1er, tu feras le tabernacle avec 10 tapis de fin lin, retors et d'étoffes teintes en bleu. Le bleu là symbolise le ciel. Le pourpre, c'est vêtements royaux. Cramoisi, le sang. Et voilà. Donc il y a à chaque fois des significations. On pourrait à chaque fois détailler, mais ça va nous prendre du temps et ce n'est pas ça le but. Le but, c'est tirer les enseignements de ce que Dieu, de ce qui peut être utile pour nous dans la vie de tous les jours, sans dire que la profondeur n'est pas utile, mais on peut se perdre. Restons simples et comprenons déjà l'enseignement général qui est là, c'est que Dieu veille à la construction de son œuvre détail par détail. Donc, il ne faut pas se dire « je vais aider Dieu ». Non, il faut être inspiré par lui. Certains font les choses en disant « je vais aider Dieu » ou bien « j'ai beaucoup de connaissances » ou bien « voilà, j'ai beaucoup d'argent ». Je vais. Non, il n'y a pas de « je vais ». C'est faire les choses selon Dieu. Parce que là, la précision qui est donnée, là, nous dépasse les agrafes, les lacets. Tout est donné. C'est pas, voilà. On ne dit pas globalement, prends du tissu bleu. Non, tu feras comme ça, tissu bleu. Tu couvriras avec le poil de chef. Tu couvriras avec... Voilà, c'est tous les matériaux, les tailles, comment les joindre. Tout ça est donné. C'est aussi un encouragement à comprendre que c'est Dieu qui bâtit son œuvre. N'est-ce pas? C'est ce qu'il lui-même il a dit, Jésus. Sur ce roc, je bâtirai mon église. C'est aussi un encouragement. D'un côté, ça peut frustrer de se dire, mais on n'a rien, on peut, il n'y a pas d'initiative personnelle, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Donc, voilà, ça demande beaucoup d'humilité. Mais de l'autre côté, c'est un encouragement à se dire, mais Dieu sait ce qu'il fait. Quand on vient t'annoncer une mauvaise nouvelle par rapport à l'œuvre de Dieu, tu te dis, il sait ce qu'il fait. Rien n'est laissé au hasard. C'est lui qui construit. C'est ce qu'on est en train de voir. Il donne des instructions. Et après, les humains peuvent ne pas respecter. Mais Dieu veillera lui-même à la construction jusqu'au bout. Même si les humains ne semblent pas respecter, Dieu défendra. S'il faut qu'il change des humains, il changera des humains. Parce que c'est lui-même qui est en train de construire. Il ne fait que se servir de nous. Voilà. Moïse n'est qu'une sorte de mémoire. Et pour répéter aux autres, oui.
Il y a une question d'un internaute qui disait, j'ai l'impression que dès le départ, Dieu leur avait donné ses richesses pour la construction, parce que à quoi allait servir tout ce qu'ils avaient pris chez les Égyptiens en étant dans le désert.
Ah ben, gloire à Dieu. Donc c'est ça. Donc Dieu a tout planifié et en quelque sorte, il leur a donné les richesses avant, à l'avance, de sorte qu'il y a une continuité, tout est planifié. Vraiment que personne ne cherche à précéder Dieu ou à aider Dieu. Donc il a planifié les choses, effectivement. On se demande à quoi allaient servir toutes les richesses. Mais finalement, il avait prévu de construire le tabernacle. Il fallait beaucoup de richesses pour cela. Oui.
Oui, pasteur, je vais revenir un peu en arrière. Est-ce que vous pouvez expliquer exactement le chandelier spirituellement?
Le chandelier?
Oui.
Le chandelier symbolise la puissance du Saint-Esprit qui sort par... qui fait briller la lumière de Dieu. Puisqu'il y a l'huile. Pour faire fonctionner le chandelier, il faut l'huile. L'huile symbolise la puissance du Saint-Esprit.
D'accord. Est-ce que la tige qui est au milieu, c'est un chrétien nouveau-né, un truc comme ça? Non, c'est une question.
Non, on ne veut pas aller trop loin. Donc restons, voilà, dans la simplicité. Donc ça, ce n'est pas dit ça. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit. Voilà. Donc, mais d'une manière globale, le chandelier symbolise la gloire de Dieu qui resplendit par la puissance du Saint-Esprit, qui est l'huile qui est dans le chandelier. Il faut savoir une chose, c'est que ce n'est pas, ça va peut-être être dit plus tard, mais le chandelier qui va être mis dans le lieu saint. Je pense que c'était vraiment important qu'on ait des schémas. Mais bon, la construction du tabernacle est longue. Hein. On aura le temps de montrer les schémas. Donc, dans le lieu saint, c'est le chandelier qui est éclairé. Pas autre chose. Il n'y avait pas la lumière du soleil. Il n'y avait que... Ça montre comment Dieu se suffit pour... s'occuper de son œuvre. Et dans le lieu très saint, c'était la gloire de Dieu qui éclairait. Donc il n'y avait pas de lumière. La présence de Dieu dans l'arche, c'est ça qui éclairait. Voilà. Donc c'est extraordinaire. Donc on voit Comme a dit la personne qui est intervenue sur Internet, c'est vraiment Dieu a préparé ça. On se souvient d'Esther. Esther, quand on lui a dit par Mardoché, mais essaie d'aller voir le roi pour lui faire entendre raison par rapport au fait qu'on veut nous tuer, nous tous, tous les juifs. Esther a dit, oh, mais moi je risque la mort. Mardoché lui dit, mais donc toi tu préfères que nous on nous tue et que toi qui es aussi juive comme nous, tu restes vivante dans le palais royal. Ne t'en fais pas. Non, est-ce que tu ne t'en fais pas, Dieu nous délivrera. Même si ça ne passe pas par toi, Dieu nous délivrera. Mais toi, tu périras avec ta famille. Tu ne peux pas réfléchir. Est-ce que ce n'est pas pour cet instant que Dieu t'a mis reine? Parce que Dieu avait vu qu'on allait nous éliminer un jour. Il t'a mis reine pour barrer cela. Bien-aimés, comprenons. Dieu nous a préparés avant. Même quand on était païens, Dieu nous a préparés. Il nous préparait pour quelque chose. Il n'y a pas de coïncidence ou bien des choses de genre, ah ben Dieu va profiter. Je suis riche, Dieu m'a vu, il va profiter de moi. Ah non, c'est lui qui t'a rendu riche pour un objectif. Il t'a rendu, voilà, il t'a fait passer par des chemins. Et si on regarde bien en arrière, on va se rendre compte de cela. Ah, je comprends pourquoi Dieu m'a fait passer par ça, par ceci, par cela, parce qu'il voulait aboutir. Voilà. Là, nous voyons. Quand Dieu demande des offrandes pour la construction du tabernacle, ça ne manque pas, à moins que les gens refusent de donner. Mais ça ne manquait pas parce qu'ils en avaient pris des richesses en Égypte. Le Seigneur prépare toutes choses. Il t'a préparé pour quelque chose. Il t'a donné l'intelligence pour quelque chose. Tout est fait pour qu'un jour, ça serve à la gloire de Dieu. De sorte que quand Dieu te donnera une instruction, tu as ce qu'il faut pour obéir à cette instruction. Dieu ne peut pas te donner une instruction sans que tu aies ce qu'il faut pour obéir à l'instruction. Nous continuons.
Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Il y aura à chaque planche 2 tenons joints l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. Tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. Tu feras 20 planches pour le deuxième côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle du côté de l'occident. Tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles seront doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour toutes les 2, placées aux 2 angles. Il y aura ainsi 8 planches avec leur base d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle, et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'occident. La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les barres et tu couvriras d'or les barres. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table, du côté méridional du tabernacle, et tu mettras la table du côté septentrional. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or et tu fondras pour elles 5 bases d'airain.
Voilà. Donc, c'est des choses à chaque fois difficiles à faire parce qu'on dit ça sera de broderie. Donc, tout un rideau, mais c'est du sérieux. Crochets d'or, 5 bases d'airain. Donc, on sent que les détails sont clairs et nets, il n'y a pas d'invention personnelle. Tout est donné, tout est clair. Chapitre 27.
Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras d'airain tous ses ustensiles. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis et tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis. Tu le placeras au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'airain. On passera les barres dans les anneaux, et les barres seront aux deux côtés de l'autel, quand on le portera. Tu le feras creux, avec des planches, il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne.
Voilà, tel que c'était montré, c'est la troisième fois qu'on lui dit, tel que c'est montré sur la montagne. Donc, c'est ce que notre frère Paul va utiliser dans le livre d'Hébreux pour dire qu'il y a un tabernacle au ciel qu'on a montré à Moïse. Voilà, donc c'est ce qu'on répète là. Et c'est ce tabernacle-là qui a été traversé par Jésus le jour de sa mort à la croix. Le tabernacle qui est au ciel, c'est ce que Paul nous explique dans l'Épître aux Hébreux. Mais tout ça est donné physiquement ici en avant-goût pour les Juifs de contempler cela et de construire. Et on revient souvent sur le bois d'acacia. L'acacia, ça, c'est une plante qui sort dans le désert. Ce bois d'acacia symbolise Christ qui est la plante, le rejeton qui sort d'une terre aride. Donc nous sommes comme une terre aride et c'est, la vie vient quand même dans cette terre aride. C'est ce que la vie de Christ jaillit de cette terre aride. C'est ce que représente le bois d'acacia. Donc chaque élément a une signification, mais comme j'ai dit, on ne va pas à chaque fois expliquer puisque ça va être trop long. Voilà, nous continuons.
Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile, avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Et 15 coudées de toile pour la seconde aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté et sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront de fin lin retors et les bases d'airain. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront, pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël.
Voilà, donc verset 21, c'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile, qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Donc la lumière ne sera jamais éteinte, donc il faudra à chaque fois mettre de l'huile pure d'olive dans cette lampe et dans le chandelier. Et il y a une fête que les Juifs célèbrent, ça s'appelle Hanouka. Il y a eu une histoire comme quoi, à cause des ennemis, le temple n'était plus approvisionné en huile, mais l'huile était finie, mais le feu, la lumière miraculeusement avait continué à briller. C'est pas une fête qui est dans la Bible. Ils font ça aujourd'hui dans leur tradition. Donc ça s'est passé. C'est un événement qui a eu lieu. C'est aussi une fête importante pour eux. Voilà. Donc c'est les instructions du Seigneur. Cette lampe-là devait garder toujours la lumière. Ça montre que le Seigneur ne s'arrête pas la nuit. Il est toujours en action, quoi qu'il arrive. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants que devront observer les enfants d'Israël. Vous savez, pour nous, ça ne pose pas trop de problèmes, ce qu'on est en train de lire, parce qu'aujourd'hui, nous savons que cette huile-là représente la puissance du Saint-Esprit, représente le Saint-Esprit. Nous savons que la lumière brille en nous, puisque le Saint-Esprit nous habite en nous, et ça continue et ça, ainsi éternellement. Mais si un juif est vraiment honnête et qu'il n'est pas chrétien et qu'il lit de telles choses, normalement, il devrait se poser des questions parce qu'on dit que c'est une loi perpétuelle, donc ça ne doit jamais s'arrêter. Or, là, ils n'ont plus de temple. Donc, ils n'ont pas tout ce qu'on est en train de lire là. Et certains juifs, à cause de leur sincérité et leur honnêteté, ils se sont convertis à Christ comme ça. Parce que quand ils ont lu, parce qu'il faut savoir que nous, on lit la Bible parce que quelque part, on nous a enseigné à lire la Bible. Mais il y a des mouvements et des groupes qui ont la Bible comme livre saint, mais sans la lire. Et parfois, nous sommes étonnés quand on lit, on dit, mais comment ces gens-là ont ce livre-là et ils se comportent de telle manière? Mais non, ils ont le livre, mais ils ne lisent pas. C'est des gens qui sont emprisonnés. Donc, les rabbins ont emprisonné le peuple juif. Un juif de lui-même ne lit pas la Bible comme toi et moi, tu es chez toi, tu lis la Bible. Non, il vient lire la Bible dans la synagogue. C'est une lecture déjà prévue à l'avance, comme chez les catholiques. Ils ont un missel où il y a des passages prévus à l'avance avec des explications. Donc, c'est comme ça que le juif pratique sa religion. Il vient à la synagogue. Quelqu'un lit le passage biblique prévu à l'avance, le paracha et haftara, c'est-à-dire un texte prophétique et un texte de 5 livres de Moïse. Donc, c'est ça qui est prévu. Maintenant, c'est des passages choisis à l'avance. Donc, jamais ils lisent Ésaïe 53, par exemple. Ésaïe 53, qui montre clairement Christ. Vous savez, Ésaïe 53 est très clair. Ça montre clairement Jésus. Il faut vraiment avoir un effort de refus terrible pour ne pas voir Jésus dans Ésaïe 53. Il faut vraiment avoir une tête costaud pour refuser ça. Et ils ne vont jamais lire ça. Et vous allez croire que le juif, il a lu Ésaïe 53, mais il refuse quand même. Non, il n'a pas lu. Il ne sait pas. Moi, j'ai eu un débat avec un rabbin et ici, vers Lisieux, dans un château, il y avait le propriétaire du château, il y avait un rabbin, quelqu'un qui devait être rabbin, mais vous savez pourquoi il n'a pas été rabbin? Parce que il faisait des études de mathématiques et un examen est tombé le samedi. Donc, il est quand même parti faire ça. Il faisait en même temps les deux. Donc, il faisait ses études pour devenir rabbin. Il suivait son cursus pour devenir rabbin. Je crois qu'il était à la fin. Mais ils ont fait tomber un examen à l'université le samedi. Lui, il est quand même parti faire son examen. Et on a annulé son parcours de rabbin. Donc, c'est quelqu'un qui avait quand même une formation de rabbin. Je lui ai fait lire Ésaïe 53. J'ai fait exprès, ce n'est pas moi qui ai lu. Parce que moi, je lui ai dit que mais pourquoi vous traînez à accepter Jésus alors que ce sont vos écritures qui parlent de lui? Il dit, ah bon? Moi, je dis, mais oui, mais on va lire Ésaïe 53. Je te laisse lire. Vous savez, il commence à lire. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Il a été ceci, cela. Il est arrivé au verset 5. Verset 4, attendez, je vois le verset qui l'a fait trembler. Ésaïe 53. Alors, il commença à lire à haute voix. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il n'y avait pas encore de problème. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. C'est ce que je vous ai dit par rapport au bois d'acacia. Donc, c'est un arbre qui sort du désert, terre desséchée, ça représente Christ. Voilà, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Pas de problème là encore. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Donc c'était le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a porté, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et il a fait comme j'ai fait là. Je dis, le problème, quel est le problème? Il me dit, mais est-ce qu'en hébreu c'est aussi comme ça? Moi, je dis, oui, oui, prenez votre Bible, cherchez une Bible en hébreu. C'est aussi comme ça en hébreu. Vous voyez, un homme qui a formation de rabbin, mais n'avait jamais lu Ésaïe 53. Pour vous dire que ce n'est pas toujours facile pour quelqu'un qui est embrigadé, qui est sous contrôle. Donc, il ne faut pas qu'on ait la bouche facile à condamner les gens. Quand les gens sont sous contrôle, embrigadés, on peut vraiment les éloigner de la vérité, sérieusement, alors que la vérité est en face. Donc, il était troublé. Et vous savez, à la fin, le monsieur qui se disait, lui, parce qu'il y en avait un qui était athée, il y a un qui était au milieu, le propriétaire du château, lui disait, bon, moi j'observe, je n'ai pas de position. À la fin, celui qui disait, je n'ai pas de position, il m'a dit, mais comment vous priez? Je lui explique, nous on s'est réunis, on lit la parole, on adore Dieu, on se laisse conduire par le Saint-Esprit, en tout cas on parle à Dieu, c'est notre Père, on lui parle face à face. Et puis il dit au rabbin, ah mais chez eux c'est agréable. C'est... Donc finalement, les gens sont ignorants. Ils ne savent pas. Parce que lui, le monsieur qui était observateur, devait se dire qu'il y a des procédures, il y a des processus. Quand je lui ai expliqué que Dieu est notre Père, quand on s'est réunis, c'est comme dans la famille. Donc, on se rappelle sa parole, on prie, on lui parle, on lui exprime ce qui est dans notre cœur et on chante ses louanges. Il dit, ah, mais chez vous, c'est intéressant. Mais voilà. Donc, beaucoup ne connaissent pas. Et donc, on ne doit pas avoir la bouche facile à la condamnation. On doit plutôt s'engager pour l'évangélisation. Parce que beaucoup ne savent pas. On doit engager notre vie. C'est facile de condamner. C'est plus difficile d'agir. Choisissons ce qui est étroit, le chemin de l'action, et non le chemin large de la condamnation. On dit, ah, mais ils ne comprennent rien. Mais qui leur a expliqué? Qui leur a parlé? C'est toi et moi qui devons faire cela, qui devons nous sacrifier pour les autres. Donc c'est ce que nous, ça paraît évident comme ça, mais beaucoup n'ont pas ça. Et ceux qui finissent par avoir ça en face, ceux qui sont honnêtes, je veux dire, hein, les honnêtes, hein, se posent des questions. Quand on dit c'est une loi perpétuelle, ben, maintenant on ne fait plus ça. Je me rappelle celui qui a fondé l'église messianique, les chrétiens, l'église chrétienne de juifs en Belgique qui s'appelle Paul Guénassia. C'est comme ça qu'il s'est converti. Puisque c'est écrit qu'il faut faire le sacrifice de la Pâque, le sang là, il faut que c'est perpétuel. Mais il s'est dit, mais maintenant on ne fait plus ça. Donc, d'un côté, il était, il croyait vraiment en l'Éternel, le Dieu de Moïse, de l'Exode, d'Ésaïe. Et de l'autre côté, il était aussi attaché au rabbinisme, donc à la religion juive telle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, quand il a lu les Écritures, on dit que le sang, il faut le verser perpétuellement tel jour. Il dit, mais nous, on n'a plus de temple. Mais comment on verse le sang? Il n'y a plus de sang versé. Il s'est dit, il y a un problème. C'est là que ce problème ne trouve de réponse qu'en Christ. Puisque le sang de Jésus, quand vous allez lire Hébreux 10, c'est dit que le sang de Jésus a une valeur définitive. Donc, c'est-à-dire que c'est valable chaque jour. C'est ça qui fait que ce verset-là qu'on vient de lire, loi perpétuelle, peut s'accomplir en ce qui concerne le sang, en ce qui concerne la puissance du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce verset s'accomplit. Quand on lit concernant le sang, on a déjà lu dans Exode 12, mais le sang, il est perpétuel, puisque le sacrifice de Jésus, tel qu'il est écrit dans Hébreux 10, c'est pourquoi Jésus a gardé les trous. Quelqu'un de ressuscité, normalement, doit avoir tout réparé. Mais lui, chez lui, il y a encore les trous. Parce que son sacrifice est valable à jamais. En fait, nous, nous sommes des êtres éternels. Il faut un sacrifice éternel pour nous sauver. Un sacrifice illimité dans le temps ne peut pas nous sauver, puisque nous sommes des êtres éternels. Donc, c'est pourquoi le sacrifice de Jésus est éternel. Les trous sont toujours là. Et c'est ainsi que la parole de l'Ancien Testament peut être vraie, puisque le sang est éternel, l'action du Saint-Esprit est éternelle, c'est ainsi que ça peut être vrai. Donc un juif qui lit ça, il se dit, mais il y a un problème, puisqu'on n'a plus le temple, puisque ce sacrifice ne pouvait être fait que dans le tabernacle, qui a été remplacé après par le temple. Il n'y a plus de temple. Où est le sacrifice? Où est la lampe qui doit être toujours allumée? Il n'y a plus. Un juif honnête, quand il lit ça, il commence à réfléchir, à dire, ah, est-ce que les rabbins ne nous trompent pas? Et pas à pas, il arrive à la vérité de Christ. C'est comme ça. Donc, nous devons toujours continuer à prier pour eux jusqu'à ce que leurs yeux s'ouvrent. Maintenant, nous passons à une étape où on va plus parler de serviteurs. Là, c'était la construction, le lieu. Maintenant, on va parler des ouvriers. Chapitre 28.
Fais approcher de toi à Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron ton frère et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes, teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, il sera artistement travaillé. On y fera deux épaulettes qui le joindront par ses deux extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Tu prendras deux pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël, six de leurs noms sur une pierre et les six autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les deux pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets, tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses deux épaules. tu feras des montures d'or et deux chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordon et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod, tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de forlin retors. Il sera carré et double, sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu y enchasseras une garniture de pierres, quatre rangées de pierres, première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude, deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant, troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste, quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12. D'après les noms des fils d'Israël, elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon. Tu feras sur le pectoral deux anneaux d'or, et tu mettras ces deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. Tu passeras les deux cordons d'or dans les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral, et tu arrêteras par devant les bouts des deux cordons aux deux montures placées sur les épaulettes de l'éphod. Tu feras encore deux anneaux d'or que tu mettras aux deux extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Et tu feras deux autres anneaux d'or que tu mettras au bas des deux épaulettes de l'éphod, sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attachera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel.
Voilà, donc on peut s'arrêter là. Donc on voit que le Seigneur préside aussi à la tenue vestimentaire du sacrificateur Aaron et de ses fils. Donc il y a tout est cité. Voici les vêtements qu'ils feront, verset 4, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront les vêtements sacrés à Aaron, à ton frère et à ses fils. Voilà, donc ça sont les vêtements qui allaient être visibles par tout le monde. Et il y a un vêtement spécial qu'on appelle l'éphod, qui était comme une sorte de gilet. Et il y a aussi le pectoral qui se joignait à ce gilet-là. Maintenant, dans ce pectoral-là, on dit qu'il y avait les pierres précieuses qu'on retrouve dans le livre d'Apocalypse à la fin. Il y avait des pierres précieuses qui symbolisaient les 12 tribus. Et il y avait l'Urim et le Thummim. Bon, jusque-là, on ne sait pas exactement c'était quoi. Donc, c'est quelque chose qui se rajoutait à ce gilet-là, l'éphod et le pectoral. Ça servait parfois à comprendre la volonté de Dieu. Donc, on ne sait pas exactement. C'est jusqu'aujourd'hui, c'est quoi l'Urim et le Thummim. Donc, nous continuons.
Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête et cette ouverture aura tout autour un bord tissé comme l'ouverture d'une cotte de maille afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie entremêlés de clochettes d'or, une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service, quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes, et il ne mourra point. Tu feras une lame d'or.
Voilà, vous connaissez, on a souvent parlé de cette anecdote, hein, l'histoire des clochettes. Donc, ça permet d'entendre Aaron, qui était le seul à entrer dans le lieu très saint. Donc, on va décrire le tabernacle. Le tabernacle, c'est deux salles. Une salle carrée, le lieu très saint. Une salle carrément même cubique, parce que c'était 10, 10, 10. 10 fois 3, 10 fois 10 fois 10. Donc c'est cubique, le lieu très saint. Et une autre salle qu'on appelait le lieu saint. Aaron était le seul à entrer dans le lieu très saint où se trouvait l'arche de l'Alliance, où on pouvait dire que Dieu était présent d'une manière physique pour rencontrer un membre du peuple. Et ce membre-là, c'était Aaron qui pouvait entrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Et Aaron devait être habillé de cette manière-là, de sorte que quand il en sortait, on pouvait savoir qu'il en est sorti, puisqu'on entendrait les bruits des clochettes. Sinon, il pouvait se faire que le souverain sacrificateur entre et soit tué par la sainteté de Dieu. Parce que tout ce qu'on voit comme vêtements exceptionnels, hein, c'est des vêtements purs, unis, de qualité, ça symbolise que pour se présenter devant Dieu, il faut être pur, il faut être de sa nature. Parce que quand on regarde les vêtements d'Aaron, on peut dire que c'était ça pouvait coûter peut-être dans les 100 000 euros d'aujourd'hui, tous ces vêtements rassemblés. Donc c'est pour dire, pour entrer dans la présence de Dieu, c'est la qualité du cœur qui est importante. C'est ça que ça symbolise. Mais malgré ça, si le vrai cœur n'était pas bon, on pouvait mourir quand même. Voilà, nous continuons. 36.
Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël. En faisant toutes leurs saintes offrandes, elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Tu feras la tunique de fin lin, tu feras une tiare de fin lin, et tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui.
Voilà, c'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Mais ça s'est arrêté puisqu'il n'y a plus le temple. Donc il y a un souci. Mais en réalité, c'est que nous avons un prêtre, un Aaron éternel, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est dans le temple de Dieu, comme c'est écrit dans Hébreux 7, 25, continuant à intercéder pour nous dans le temple du Seigneur. Donc on revient toujours à cette histoire de perpétuel. Un vrai juif devait se poser des questions quand il voit ça et quand il voit la réalité, il n'y a plus de temple. Il doit se dire, mais il y a un problème. Dieu a dit perpétuel, mais on ne le fait pas. Donc où est la solution? La solution, c'est en Christ que se trouve la solution. Mais voilà le résumé, vêtements de sacrificateurs, vraiment des vêtements. Vous savez, dans la Bible, quand on te voit nu, ça symbolise le péché. Et quand on est dans la sainteté, on a des vêtements blancs de valeur. Et Aaron, non seulement c'était des vêtements blancs, des vêtements plutôt de valeur, c'était en plus des choses brodées. Donc l'intervention, donc c'était des choses faites d'une manière unie. Même l'inscription « Sainteté à l'Éternel », ce n'était pas écrit, ce n'était pas gravé, c'était posé comme un cachet. Donc il fallait pas que, voilà, il fallait que ça soit tout devait être entier. Il y a les choses de Dieu sont données entières. C'est pas la construction humaine. C'est ça que ça symbolise. Et tout cela montre à qui on a affaire. On a affaire au Dieu tout-puissant, glorieux, saint. Et la difficulté, tout ça qu'on est en train de lire, c'est finalement difficile d'entrer dans la communion avec ce Dieu, de le rencontrer. Mais aujourd'hui, Jésus nous a simplifié tout ça. C'est pourquoi un vrai chrétien, rien que en se souvenant de ce que Jésus a fait, il devait être tout le temps content. Parce que regardez comment Aaron devait être habillé pour rencontrer Dieu une fois par an. Une fois par an, il fallait qu'il soit habillé comme ça. Une fois. Mais nous, on peut entrer en contact avec Dieu tout le temps à cause du sang de l'agneau. Donc quand Jésus a été crucifié, le voile qui séparait le lieu saint où tous les prêtres étaient et le lieu très saint où Aaron, le souverain sacrificateur, devait entrer qu'une seule fois par an, ce voile-là a été déchiré, montrant que nous avons désormais accès par Jésus à Dieu comme on veut, puisque son sacrifice est toujours valable. Quand rien que penser à cela, on se dit, mais quelle grâce nous avons. C'est pourquoi quand vous écoutez les vieux chants, tout tourne autour du sacrifice de Jésus. C'est le chant d'aujourd'hui, Dieu m'a béni, Dieu m'a... Mais ça c'est le chant d'aujourd'hui. Mais les vieux chants c'était, ah merci pour le sang. Ça tournait toujours, merci pour le sang. Mais, puisque à partir de là, Dieu peut faire, tu peux demander à Dieu tout ce que tu veux, puisque le sang a coulé, tu peux entrer. Dire, mais j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin de ceci. Mais nous, on fait l'inverse aujourd'hui. Il m'a donné ceci, il m'a donné la voiture, il m'a donné... Oh. Commence par louer Dieu. Merci d'un cœur reconnaissant. C'est ça d'abord. Parce qu'il a donné à Dieu la gloire pour son grand amour. Tous les vieux chants tournent autour du sang de Jésus parce que c'est des gens qui avaient compris quel est le trésor qu'il y avait là-bas. Quand tu vois comment Aaron doit galérer pour entrer dans la présence de Dieu et que maintenant pour nous, c'est donné à cause du sang de l'agneau, à cause du sacrifice de Jésus, ben tu peux vivre que de cela. Vivre que de cela. Et après tout le reste, ça vient. Nous continuons, chapitre 29.
Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et deux béliers sans défaut. Fais avec de la fleur de farine de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain, arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille, en offrant le jeune taureau et les deux béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête, et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils, et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel, et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure, et tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu brûleras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments, c'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang, et tu le répandras sur l'autel tout autour. Tu couperas le bélier par morceaux et tu laveras les entrailles et les jambes que tu mettras sur les morceaux et sur la tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras l'autre bélier, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure, et l'épaule droite, car c'est un bélier de consécration. Tu prendras aussi dans la corbeille de pain sans levain, placée devant l'Éternel, un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Tu mettras toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et tu les agiteras de côté et d'autre devant l'Éternel. Tu les ôteras ensuite de leurs mains, et tu les brûleras sur l'autel, par-dessus l'Holocauste. C'est un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron, et tu l'agiteras de côté et d'autre devant l'Éternel. Ce sera ta portion. Tu sanctifieras la poitrine et l'épaule du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et de ses fils, la poitrine en l'agitant de côté et d'autre, l'épaule en la présentant par élévation. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils, par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël, car c'est une offrande par élévation, et, dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël, l'offrande par élévation sera pour l'Éternel. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils, qui les mettront lorsqu'on les oindra et qu'on les consacrera. Ils seront portés pendant 7 jours par celui de ses fils qui lui succédera dans le sacerdoce et qui entrera dans la tente d'assignation pour faire le service dans le sanctuaire. Tu prendras le bélier de consécration et tu en feras cuire la chair dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront, à l'entrée de la tente d'assignation, la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation afin qu'ils soient consacrés et sanctifiés. Nul étranger n'en mangera, car ce sont des choses saintes. S'il reste de la chair de consécration et du pain jusqu'au matin, tu brûleras dans le feu ce qui restera, on ne le mangera point, car c'est une chose sainte. Tu suivras à l'égard d'Aaron et de ses fils tous les ordres que je t'ai donnés. Tu les emploieras 7 jours à les consacrer. Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché. Pour l'expiation, tu purifieras l'autel par cette expiation et tu l'oindras pour le sanctifier. Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel et tu le sanctifieras. Et l'autel sera très saint et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an, chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Tu offriras avec le premier agneau 1/10 d'épha de fleurs de farine pétrie dans 1/4 d'huile d'olive concassée et 1 libation d'un quart de 1 de vin. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec 1 offrande et 1 libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu.
Amen. Voilà, donc, quelle complication. Donc, faire tout ça pour consacrer à Aaron et ses fils le sang sur l'oreille droite. Donc, l'oreille a une importance. Hein. Donc, l'orteil. Mais aujourd'hui, c'est le sang de Christ qui nous sanctifie. C'est vraiment extraordinaire. Et oui, question là-bas.
Pourquoi quand on lit, on a l'impression que c'est compliqué, c'est technique et tout. Pourtant, on voit que bah, Dieu, il est simple. Et
on voit que
Dieu, il est simple, enfin, dans sa manière d'être, il est simple.
Et, pas compris.
Par rapport
Dieu
à...
est saint.
Non, simple, il est simple.
Et Dieu est simple, oui.
Mais les recommandations qu'il donne et tout, j'ai l'impression que c'est technique, il faut chercher. Quoi.
Oui, non, mais Dieu est simple, mais la situation de l'homme est compliquée. Donc même si un docteur est simple, mais s'il doit séparer deux jumeaux siamois, ben ça peut prendre 24 heures d'opération, même deux jours. Donc, on a vu ça à la télé, 24 heures de médecins en deux équipes pour séparer. Le cas est compliqué, le cas de l'homme est compliqué. C'est ça qui rend les choses compliquées. Donc, ce n'est pas Dieu qui est compliqué, c'est l'homme qui est un cas perdu, un cas difficile. Et à partir de là, il fallait... Au fait, tout ça nous montre que l'état de l'homme est tellement compliqué que pour s'approcher de Dieu... C'est une longue procédure. Déjà, on a parlé des vêtements. Là, maintenant, non seulement les vêtements, il faut qu'il mange des choses, il faut qu'il soit aspergé des choses, du sang, de l'huile. On se rend compte que servir Dieu, le véritable Dieu, c'est un luxe. C'est un luxe. Et maintenant, ce luxe nous est donné gratuitement. Tu dis, mais c'est ce qui est compliqué maintenant. Comment, maintenant que c'est simple, les gens ne veulent pas. Là, on dit, c'est compliqué. Dieu simplifie les choses maintenant par Jésus. Les gens disent, mais c'est trop simple, c'est trop facile. Les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, quand c'est simple, c'est trop simple. Quand c'est compliqué, c'est compliqué. Et là, c'est vraiment compliqué parce que l'état de l'homme est grave. Donc, ça nécessitait tout cela. Mais, malgré tout, ça pouvait ne pas marcher, puisque si le sacrificateur avait un péché, il pouvait mourir. C'est aussi, ça nous montre aussi la sainteté de Dieu, tout ce qu'on est en train de lire. Ça montre qu'on ne blague pas avec Dieu. Là, pour servir Dieu dans le temple, voilà tout ce que les fils d'Aaron et lui-même devaient vivre de la part de Moïse avant d'entrer dans le service. Sans compter l'apprentissage de la parole. Mais eux-mêmes, rien que... Voilà la procédure. Aujourd'hui, ben, surtout dans les milieux évangéliques, on parle tellement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est devenu synonyme de désordre. Ah, mais c'est l'Esprit qui va conduire. Oui, mais attends, l'Esprit va conduire, mais l'Esprit est un esprit d'ordre. Il y a aussi des procédures. C'est pas... Maintenant, tout le monde devient pasteur quand il veut. Il y en a qui s'autoproclament dans sa maison, il s'est proclamé pasteur, lui tout seul. Maintenant, quand il vient à l'église, il dit, ah, frère, tu as servi. Oui, je suis pasteur. Donc, il se présente déjà comme ça. Or, c'était dans sa chambre qu'il avait, il s'était donné lui-même le titre. Et maintenant, ça dépend dans quelle église il tombe. Il y a des églises laxistes. Facile, on l'appelle aussi pasteur, et c'est parti comme ça. Il y en a dans certains pays, quand tu parles bien français et tu parles de la parole de Dieu, on t'appelle évangéliste, bien pasteur. Et quelqu'un, le titre va se promener comme ça. Oh, le pasteur qui est au coin là-bas, mais qui l'a mis là, pasteur ? C'est juste parce que vous l'avez entendu parler de Dieu. Et à partir de là, ça part. Et le désordre maintenant rempli, donc il y a un non-respect des procédures, un non-respect de l'ordre. L'apôtre, il en parle dans 1 Corinthiens 14, 33, l'église de Dieu est une église d'ordre. On donne des conditions pour nommer les diacres. Des conditions difficiles dans l'acte des apôtres. Qui soient remplis du Saint-Esprit. Dans 1 Timothée 3, on donne des conditions. Aujourd'hui, les gens ne respectent plus les apôtres. Ah, mais c'est l'Esprit qui fait. Oui. Donc, esprit, synonyme de désordre. Non, l'Esprit Saint, ce n'est pas synonyme de désordre. Donc, il y a des choses... Mais quand on lit ça, on se rend compte que... Ah, mais c'est du sérieux. C'est du sérieux, les choses de Dieu. C'est du sérieux. Oui.
À partir du verset 32, on dit que donc Aaron et ses fils mangeront à l'entrée de la tente d'assignation la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation afin qu'ils fussent consacrés et sanctifiés. Nul étranger n'en mangera. Ma question, c'est, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les paroles de Jésus quand il dit « Il faut manger ma chair et boire mon sang ?»
Oui, oui, on peut faire le parallèle.
Ok. La deuxième chose aussi qui m'interpelle dans cette lecture, c'est ce sont des très beaux vêtements donc qui ont dû coûter, prendre du temps, etc. Et ils sont aspergés d'huile. Donc ces vêtements-là, donc nous, au jour d'aujourd'hui, un vêtement qui est aspergé d'huile, c'est un vêtement qui est gâché, quoi, parce que l'huile, ça s'en va pas. Donc ça m'interpelle parce qu'en fait, ça me montre que la considération de Dieu par rapport aux choses, ce n'est pas vraiment du tout la même que la nôtre, quoi.
Voilà. Voilà, donc Dieu a sa façon de voir, mais bien sûr qui est la meilleure. Hein. Voilà, donc c'est. Mais tout ça symbolise, pour nous aujourd'hui spirituellement, ce n'est pas les vêtements physiques, mais c'est ton état vis-à-vis de Dieu, ton état de sainteté. Ce sont ces vêtements-là, et l'huile symbolise la puissance du Saint-Esprit dans la vie de la personne. On retrouve cette affaire dans Ecclésiaste quand on dit. Quand tout temps, ta tête soit ointe et puis que tes vêtements soient blancs. Donc, c'est la même chose. Mais quand on lit tout ceci, on se dit, les choses de Dieu, c'est sérieux. C'est du sérieux. On ne blague pas avec cela. Ce n'est pas une exhortation à fuir aussi son appel. C'est juste un appel à être sérieux dans les choses de Dieu. Donc là, ça ne blaguez pas. Regardez toute la procédure. Pour que Aaron commence le travail avec ses fils. Bon, on va avoir d'autres exemples qui montreront que les choses de Dieu, c'est sérieux. Nous allons nous arrêter là et demander que le Seigneur... Et d'ailleurs, il dit à la fin, au verset 46, « Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » Donc, Dieu maintenant va habiter dans le tabernacle. Et ces procédures difficiles-là, Dieu dit, ça leur fera connaître. Parce que l'homme a un souvenir qui flanche. L'homme oublie. Mais à travers tout ça, quand les prêtres vont s'habiller, vont se préparer, ça va leur... Mais on se prépare comme ça, pourquoi ? Parce que Dieu nous a sauvés. Voilà, donc ça va rappeler, ça va servir aussi d'aide-mémoire. Ils connaîtront que je suis l'Éternel qui les a fait sortir d'Égypte et qui veut habiter au milieu d'eux. Donc, c'était le prix à payer pour que Dieu habite. Sans ça, Dieu n'allait pas habiter au milieu d'eux. Donc, c'était le prix à payer pour que Dieu puisse habiter au milieu d'eux. La partie qu'on a traitée aujourd'hui, c'est Dieu qui veut habiter maintenant au milieu de son peuple. C'est une nouveauté depuis Adam. En ce moment-là, ça devient une nouveauté. Avant, Dieu parlait à un individu. Il fonctionnait avec un individu. Pas à pas, il a créé un lien de transmission par la filiation. Donc, j'ai parlé à Abraham, je continuerai avec son fils. Et ensuite, c'est devenu un peuple à qui il s'est révélé. donc Jacob, Israël avec ses 12, les 12 tribus qui allaient suivre. Et maintenant, Dieu va habiter au milieu d'un peuple. Ça symbolise clairement l'Église du Seigneur. 1 Pierre 2 nous dit que nous sommes des pierres vivantes qui formons la maison spirituelle de Dieu. Donc c'est le tabernacle qu'on est en train de regarder là, c'est nous maintenant aujourd'hui. Nous formons le tabernacle de Dieu. Le tabernacle, c'est un lieu d'habitation. Donc quand donc il est écrit comme ça, je vais habiter au milieu d'eux. Et c'est ça qui ces conditions là étaient obligatoires afin que Dieu habite au milieu d'eux. Voilà ce qu'on peut retirer de cette étude. Prions que le Seigneur nous aide à être sérieux afin qu'il habite au milieu de nous, qu'on le prenne au sérieux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons de lire combien tu es sérieux et que tu veux qu'on te prenne au sérieux. Aide-nous, Seigneur, à te prendre au sérieux, dans le nom de Jésus. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Manifeste-toi, afin que nous cessions de nous amuser avec ton œuvre, afin que nous ne puissions pas mettre ton œuvre en deuxième position, en troisième position, mais mettre ton œuvre, te servir en première position, Seigneur. Et quand nous sommes dans le service, ne pas s'amuser avec, ne pas croire que c'est une affaire d'homme, ne pas croire que c'est une affaire d'organisation. C'est toi que nous servons, c'est une chose, c'est une affaire très, très sérieuse. Aide-nous à prendre cela au sérieux, que la crainte pour ton nom revienne dans nos cœurs, de sorte que nous ne tombions pas sous le coup de la malédiction qui dit « Quiconque fait ton œuvre avec négligence est maudit, Seigneur. » Aide-nous, Seigneur, à faire, à retrouver le sérieux que nos prédécesseurs avaient concernant ton service. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu soit béni.